Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Du paracétamol français d'ici à 3 ans, c'est l'une des promesses phares des mesures de relocalisation prévues dans le plan de relance à 100 milliards d'euros. Vraie opportunité au nouveau mirage, la longue marche vers les usines du Made in France est loin d'être finie.
Et oui, Tiffaine, vous vous rappelez qu'en mars, la presse spécialisée parlait d'électrochoc pour l'industrie française, la deuxième la plus affectée en Europe et qui découvrait de manière cuisante sa dépendance aux importations étrangères, médicaments en tête, d'où un soutien étatique sans précédent. C'est un tiers des 100 milliards d'euros, d'abord pour endiguer une vague de délocalisation, mais surtout pour relocaliser celles qui pouvaient l'être, circuit court, marché stratégique ou d'avenir. Et les entreprises, c'est vrai, montrent un réel appétit, plus de 1600 projets pour les territoires d'industrie, ce sont des aides à la reconversion de friches et à la numérisation, la version locale du plan, et puis aussi surtout de plus de 3600 demandes pour son volet national, le fonds de relocalisation de 600 millions d'euros qui doit servir à créer de nouvelles lignes de production stratégiques. La pharmacie est la première bénéficiaire, mais les 31 premiers projets annoncés concernent aussi l'agroalimentaire innovant, des compléments alimentaires ou de la nourriture à base d'insectes, et l'engouement est tel que, selon Bruno Le Maire, il sera probablement nécessaire de rapatrier une partie des crédits de 2021 sur 2020, tellement la demande est forte.
Et pourtant, 1 milliard d'euros pour les relocalisations, ce n'est jamais qu'un sur 100 milliards.
Eh oui, le calcul est bon, Tiffaine. L'objectif
excellent,
a été qualifié. Tout à fait. Même si, en tout cas, l'objectif a été qualifié de prioritaire par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron au début du confinement. Ce sont effectivement 43 des 70 mesures du plan de relance qui sont à destination de l'industrie. Mais attention au trompe-l'œil, avertit notamment l'économiste Nadine Levrateau dans plusieurs articles. Selon elle, l'écart entre les annonces et la distribution effective est important et le milliard prévu pour la relocalisation risque de manquer sa cible, voire d'être contre-productif, car d'une part, dit-elle, ce ne sont pas les industries les plus prometteuses qui sont les plus avantagées, ni les industries manufacturières, ni les marchés d'avenir de la transition écologique, mais bien l'électricité, l'extraction, la banque, et puis d'autre part, la baisse des impôts de production fragilise les collectivités, alors que les investissements locaux sont un moteur de relocalisation, poursuit-elle. Même scepticisme d'ailleurs de la part de la géographe Anaïs Voigilis. Certes, l'industrie génère 3 à 4 emplois pour un en usine, ce dont aucun autre secteur n'est capable, et la transition d'une production de masse, continue-t-elle, vers une personnalisation de masse, est un mouvement enclenché depuis quelques années, mais les freins structurels perdurent et on ne reverra pas en France d'usine avec 10 000 salariés, il n'y aura pas de Billancourt 4.0.
Alors Xavier, au-delà du plan de relance, est-ce qu'on saura contrer la désindustrialisation ?
Eh bien, on part de loin, car le paysage industriel, vous le savez, c'est peu à peu dépeuplé. L'industrie ne compte plus que pour 14% du PIB en France, contre à peu près 10 points de plus en Allemagne et au Japon. Elle ne crée plus qu'un cinquième des emplois. Et il y a un facteur cependant mondial favorable, l'augmentation des coûts de production en Asie qui entraîne depuis déjà 20 ans un mouvement de relocalisation. C'est le ralentissement de l'hypermondialisation dont parle l'économiste Helmut Mood. Mais la dépendance industrielle aux importations reste forte en France et les relocalisations n'y répondront que partiellement, car ce n'est pas le coût du travail humain qui est le frein principal. Les ouvriers de l'industrie sont mieux payés en Allemagne qu'en France. Ce sont les usines elles-mêmes et leur gestion. Ce sont les trois plaies détaillées par le journaliste Julien Dupont-Calbeau dans Les Échos. Faible rotation du capital et du retour sur investissement lent donc, faible robotisation et faible impact sur l'emploi local en raison de leur internationalisation.
Choix industriel, des politiques ou des consommateurs, comment réintégrer les chaînes de valeur mondiale ?
Eh bien, depuis des années, là on le voit aussi, depuis Arnaud Montebourg, les gouvernements identifient des secteurs privilégiés de relocalisation. Ils sont 5 dans la dernière version, de la mécanique de pointe aux matières premières dites essentielles. Quant à la demande, le cabinet PwC, par exemple, identifie 113 produits potentiellement relocalisables pour lesquels la demande locale se fait forte. Ce serait 115 milliards d'euros de biens qui sont aujourd'hui importés. Et puis la période donne lieu à une profusion d'avis et de conseils. C'est vrai, dans Les Échos, le PDG de Michelin pose ses 5 conditions. Dans Marianne, c'est le think tank Conférence Gambetta qui professe ses 10 recommandations, en soulignant chacun l'importance des régions, d'une coordination européenne et d'une formation de qualité. Mais ce sont aussi les entreprises qui doivent changer, écrit dans Les Échos toujours le directeur R&D de Huawei France, Merwan Deba. Selon lui, ce sont elles qui doivent s'ouvrir aux académiciens et aux chercheurs en leur permettant de baigner dans le double milieu et de faire de la recherche fondamentale indispensable, donc relocalisation scientifique, écrit-il, sous peine de revivre l'épisode du prix Nobel du CRISPR-Cas attribué à la française Emmanuelle Charpentier, mais pas à la France qui se prive d'un brevet industriel et d'un marché d'avenir majeur. Alors Tiphaine, vous reprendrez bien peut-être un électrochoc.
Pas tout de suite. Merci beaucoup Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho qui est à réécouter sur franceculture.fr.